8h42 minutes, bon lundi matin, début de la semaine de relâche. Merci d'être bien branché à Boulevard 102.1. Rage Against le matin. C'est jusqu'à 10h avec Reg Laplanche, Jeff Fortin et Max Larouche. Le texto pour nous écrire en studio, le 418-971-1021. Vous voulez nous lâcher un petit coup de fil, ça se fait via le 418-780-1021. On a un peu plus tôt à l'émission, et c'est disponible sur le blvd.fm, on a jasé plus de la situation politique de la rencontre Trump-Zelensky. On va jaser plutôt du côté militaire, donc un peu plus tôt avec Luc Laliberté, chroniqueur au Journal de Québec. Et du côté militaire, on va jaser avec notre spécialiste en conflit à l'international, Éric Ouellette, qui est professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Éric, bon matin.
Bon matin.
Toujours un plaisir. Merci d'être là, cher ami.
Un plaisir à partager.
Monsieur Éric, là, OK. J'ai besoin d'avoir... Je suis presque allé formel dans ton... Monsieur Ouellette, je veux vos réactions. Éric, je veux tes réactions sur la rencontre Zelensky-Trump de ce que toi t'as vu et vécu vendredi dernier.
Ben, écoutez, ça, c'est clairement un désastre diplomatique. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que l'élément qu'il faut retenir dans tout ça, c'est peut-être que l'administration Trump cherche vraiment à ce que les Européens prennent en charge la défense du continent. Et ça inclut d'entretenir une paix future en Ukraine. Et je pense que l'élément qu'il faut retenir, c'est que c'est évidemment la rencontre n'a pas tourné comme prévu, mais ça a forcé les choses dans cette direction-là. Il y a un sommet de défense en Europe là, qui vient de se terminer, où les Européens finalement décident qu'ils vont faire plus pour la défense future de l'Ukraine une fois qu'il y a une paix. Et dans ce sens-là, je pense que peut-être que là, il y a peut-être un élément positif qui se dégage malgré le désastre diplomatique qui a eu lieu.
Éric, le Canada dans tout ça, bien heureux personnellement qu'on prenne le bord de l'Ukraine dans tout ça, qu'on garde la porte ouverte quant à l'envoi éventuel de troupes sur place en Ukraine pour maintenir la paix. Mais est-ce que c'est une bonne décision d'afficher ses couleurs haut et fort comme ça pour ce qui est de nos relations avec Donald Trump et les États-Unis?
Je pense pas que ça soit problématique. Okay. Parce que dans la mesure où le Canada devient plus sérieux en termes de défense et de sécurité et qui contribue de façon efficace à un problème quelconque, je pense que les Américains vont nous voir ça d'un bon œil. Donc, si on augmente nos dépenses de défense de façon très sérieuse et qu'on déploie des troupes pour aider les Européens et les Ukrainiens, pour les Américains, tout ça, c'est beau parce que ça fait en sorte qu'eux ont moins à s'occuper de l'Europe. Parce que vraiment, leur priorité, leur grande priorité, c'est la Chine.
OK.
À quel endroit, justement, font investir rapidement du côté de notre armée, Éric, au Canada pour satisfaire les besoins des États-Unis?
Ben, je pense qu'à court terme, c'est difficile d'augmenter les capacités militaires rapidement, mais au moins si les budgets sont là et des plans clairs sont mis en place. Il y a en ce moment des discussions, par exemple, d'acheter des sous-marins, mais ça va prendre des années avant que les sous-marins soient opérationnels. C'est augmenter aussi la taille de la force. On parlait d'une force régulière là, qui pourrait aller jusqu'à 100 000 soldats. Donc, il y a toutes ces pressions-là d'accélérer les capacités qui vont prendre un certain temps. Mais au moins, si les budgets sont en place, on a déjà ça de gagné.
Dans le contexte géopolitique actuel où tout de même à la Maison-Blanche, vendredi, Donald Trump encensait Vladimir Poutine, est-ce qu'il faut craindre pour la protection du Grand Nord canadien?
En fait, les Américains se plaignent beaucoup que le Canada ne fait pas assez pour la défense de l'Arctique. Et donc, je pense que c'est tout à fait le contraire. Le président de la Chambre des représentants américains a dit il n'y a pas très longtemps que écoutez, les Russes ne sont pas nos amis, mais il faut parler avec eux si on va avoir la paix en Ukraine. Et donc, je pense que ça reflète bien l'esprit américain. La défense de l'Arctique est une grande priorité et les Américains veulent qu'on fasse plus. Donc, il ne faut pas craindre une présence russe dans l'Arctique canadien. Bien au contraire.
Éric, tu parlais de 100 000. Est-ce que c'était le nombre de soldats que nous, on pourrait envoyer en Ukraine?
Non, ce serait la force régulière totale. Si on avait ce chiffre-là en ce moment, on pourrait probablement envoyer une brigade. Là, on parle de entre 3 et 5 000 soldats en Ukraine. Ce serait probablement un chiffre possible, mais on est en ce moment bien loin de cette capacité.
Et qu'est-ce que ça représente, ce nombre-là, le 3 à 5 000 soldats pour les Forces armées canadiennes?
Oh ben, ce serait un investissement majeur, mais si on se rappelle, durant la guerre froide, le Canada avait une brigade en Allemagne pour se protéger l'Europe de l'Ouest contre les Soviétiques. Mm-hmm. Ce serait un petit peu la même idée, savoir une brigade, mais elle serait peut-être déployée en Ukraine comme une force d'interposition en supplément de déjà des troupes qui sont en Lettonie en ce moment.
Là, il y en a qui pensent, puis tu sais, je pose la question parce que je l'ai vu, puis moi, je sais que c'est pas comme ça que ça marche, mais il y en a qui pensent, c'était peu, là, si on envoie des troupes en Ukraine, nous, le Canada, puis là, ça, la map pogne avec la Russie, on tombe immédiatement en guerre mondiale. C'est pas, ça escalade pas si vite que ça, là.
Oui, tout à fait. Mais écoutez, c'est les troupes qui seraient canadiennes et bien d'autres. L'idée centrale, c'est de la dissuasion. C'est-à-dire que les Russes n'oseraient pas attaquer parce qu'ils savent que ça retournerait à la Troisième Guerre mondiale. C'est vraiment l'idée centrale là, qui est derrière la dissuasion. N'y pensez même pas. Donc, si vous n'osez pas attaquer, mais il faut avoir une force qui est crédible, parce que si la force est trop faible, là, les Russes peuvent se dire « Ah, peut-être qu'on pourrait réussir après tout, bon, on va s'essayer. » Ça, c'est dangereux.
Est-ce que ce conflit-là, justement, qui, là, est en train de se positionner entre les États-Unis et l'Union européenne, tant qu'à la protection de l'Ukraine et la protection du territoire en Europe en général, fait en sorte que l'Union européenne n'aura pas le choix d'augmenter sa puissance militaire comme le Canada doit le faire?
Tout à fait. D'ailleurs, je pense qu'il y a la notion qu'il y a une espèce de division du travail là, au sein des pays occidentaux, c'est-à-dire que l'Europe et peut-être le Canada s'occupent des Russes et les États-Unis et l'Australie et d'autres alliés de la région s'occupent de la Chine. C'est pas une idée nouvelle. Hein. Déjà à l'époque d'Obama, on commençait à penser comme ça. Donc oui, c'est des pressions qui augmentent dans cette direction-là.
Est-ce que l'Union européenne peut devenir une puissance militaire encore plus importante que les Américains ou les Américains vont toujours demeurer au premier rang?
Ben, le problème, c'est que les Européens sont divisés en de multiples pays, donc avoir une force unifiée, c'est à peu près impossible. La seule force qui est quelque peu unifié, c'est à travers l'OTAN. Donc, je pense qu'il faut peut-être voir les pays européens membres de l'OTAN et d'autres pays de l'Union européenne qui peut-être pourraient rajouter des forces à une espèce de consortium européen. Mais la grande difficulté, c'est les armes nucléaires, la dissuasion nucléaire. La France en a, les Britanniques aussi, mais c'est une force relativement faible comparée à celle des Russes. Et là, la grande question, est-ce que l'Europe devrait s'équiper d'une force nucléaire comparable à celle des Russes? Là, ça, on est loin de tout ça en ce moment.
Éric, est-ce que la game est en train de changer par rapport au conflit à l'international? Je sais que c'est le deuxième mandat de Donald Trump à la présidence des États-Unis, mais de la façon qu'on voit Donald Trump parler de la bande de Gaza, de la façon qu'on le voit rencontrer des leaders à l'international, la rencontre avec Zelensky vendredi dernier, la game, est-ce qu'elle est en train de changer?
Je pense que ce qui change en ce moment, c'est peut-être pas tellement les fondements de la politique étrangère américaine, parce qu'il y a beaucoup de choses qui demeurent, les objectifs sont les mêmes qu'avant. C'est plus l'approche. Et je pense que malheureusement, d'un point de vue américain, lorsqu'ils parlent à leurs alliés, à leurs interlocuteurs, ils ont des beaux sourires, puis oui, monsieur, on va faire ça, et il ne se passe rien après. Monsieur Obama, par exemple, avait demandé au Canada d'augmenter sa défense. On a coupé les budgets au lieu. Les Américains sont assez frustrés et veulent qu'il y ait de l'action cette fois-ci. Donc, les bourdes de monsieur Trump sont à bien des égards, il faut les voir comme des tentatives de mettre une pression très sérieuse pour qu'il y ait de l'action et non pas juste des paroles.
Ultimement, Éric, et en terminant, comment tu vois la réaction de la Russie cette semaine? Est-ce que la Russie va en profiter pour dire « Oh, il y a de la chicane au sein des alliés de l'Ukraine, donc j'y vais d'une offensive sur le terrain » ou ça va être du pareil au même?
Je pense pas qu'il y ait de grands changements parce que la Russie sont pas capables ils ont pas les ressources de monter une offensive majeure. Donc, ça changera pas grand chose. Il y aura peut-être une offensive diplomatique pour tenter de de semer la zizanie au sein des Européens pour qu'ils aient pas un effort unifié pour défendre l'Ukraine. Mais je peux pas imaginer des troupes russes plus actives qu'avant parce qu'ils n'ont pas les ressources.
Éric Ouellet est professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada, notre spécialiste en situation et en conflit à l'international. Éric, merci infiniment, toujours un plaisir.
Le plaisir est partagé.
À bientôt.
Au revoir.
Bonne semaine, Éric Ouellet.
Oui. Excellente discussion avec Éric Ouellet, justement, par rapport à ça. C'est intéressant, j'avais jamais vu ça sur ce côté-là. Europe, Canada, occupez-vous des Russes. États-Unis, Australie, on va s'occuper de la Chine. Puis comme ça, ben, on va venir justement mettre de la pression énorme sur les deux plus importants régimes autoritaires de la planète. Alors, intéressant le point de vue là, d'Éric Ouellet là-dessus.
Ouais, c'est pour de l'information comme ça que c'est toujours un plaisir de jaser avec Éric Ouellet à Rage Against le matin.
Oui, puis ce que je retiens de Donald Trump, c'est que la manière n'est pas la bonne, mais il défend des positions américaines qui remontent aussi loin que des positions de Barack Obama. Donc, voilà pourquoi il se sent légitime de le faire.
Le clan de la savate en musique avec l'armée des voyous. Ensuite, on vous gâte avec des laissez-passer pour le Salon de l'Auto de Québec qui commence demain.